France Inter.
Bon ben voilà, c'est bon, maintenant on est dans le jeu. Alors, on est tous les deux face à un dragon gigantesque. Moi je suis un mage, alors je vais lui lancer dans la tête une flèche énergétique. Wouah ! Alors ?
Ok, c'est bon, t'as réussi ton jeté de dé, donc maintenant tu peux jeter ton dé.
Non mais je viens de lancer mon dé là.
Oui, non mais là t'as jeté le dé pour savoir si tu pouvais jeter le dé, mais dans le jeu. Tu dois tirer le dé pour savoir si tu peux tirer le dé pour tirer la flèche. En fait, c'est-à-dire qu'on dit qu'on... En fait, on est dans la vie, on joue, ensuite on joue à la vie, puis la vie joue au jeu, et le jeu, à la fin...
On est dans la vie.
Non.
Efficace toujours. Bonjour, Dragon Ristik.
Bonjour.
Vous êtes fan de jeux de rôle, vous êtes aussi auteur de jeux de rôle, vous êtes même vice-président de la fédération qui chaque jour défend auprès de leurs détracteurs et des institutions qui les méprisent le pouvoir imaginatif et convivial de ces séances de jeux de rôle où l'on enfile le costume que l'on veut. Alors j'imagine, Dragon Ristik, que c'est pas votre vrai nom, mais je vais pas...
Eh bien vous trompez, c'est bien mon vrai nom, ce n'est pas un pseudo.
C'est pas vrai.
Tout à fait, c'est d'origine de l'ancienne Yougoslavie.
D'accord, vous étiez présupposé à devenir joueur de rôle. Vous qui vous décrivez comme un dinosaure du paysage français, comment est-ce que vous êtes pris de passion pour les jeux de rôle? Où est-ce que tout a commencé?
Alors, juste pour faire une petite correction de sémantique, je ne suis pas un joueur pro, parce que ça voudrait dire que je suis payé pour faire du jeu de rôle ou que je suis payé pour faire jouer les autres, et ce n'est pas le cas. C'est une passion et un loisir, effectivement, qui prend pas mal de temps. Donc moi, le jeu de rôle, je l'ai découvert à peu près aux années collège, lycée, fin des années 85-90. Et puis, ma foi, j'ai découvert ça dans une maison de quartier près du Square Carpeau, dans le 18e.
Vous êtes tous les deux des enfants du 18e arrondissement, je le précise. Ça ressemblait à Stranger Things
À ce moment-là, alors d'abord, j'ai été spectateur d'une partie totalement ubuesque où il y a eu des descriptions incroyables et je voyais ça, j'avais 12 ans et je me disais, mais c'est pas possible, c'est ça que je veux faire dans la vie en fait. Enfin, comme loisir, parce que le pouvoir d'imagination, c'est incroyable.
Vous y voyez que du positif, ça développe des compétences sociales qui vous servent tous les jours. Par exemple, vous étiez un peu introverti avant. Aujourd'hui, ça vous aide à gronder des gens de votre travail avec l'aplomb d'un Targaryen. Pour ceux qui ne suivent pas Game of Thrones comme Marine, voilà. C'est une famille de tyrans sanguinaires. C'est positif, ça, de pouvoir gronder les gens comme un Targaryen?
Alors, ce qui est positif, c'est de pouvoir, à travers le jeu de rôle, avoir tout un paquet de situations, de négociations, de conflits, d'émotions. Tout ça, c'est de l'entraînement, de la même manière que si je voulais performer au tennis, il faudrait que je prenne des cours avant de faire un match, plutôt que de partir directement dans un match. Et donc, moi, j'ai une activité professionnelle qui n'a rien à voir avec le jeu de rôle. Je suis maître d'œuvre. On pourrait imaginer que je suis une espèce d'arbitre de chantier. Ma foi, si je ne suis pas respecté, ça ne va pas le faire du tout. Et je disais aux gens, interviens quand tu veux, fais ton chantier quand tu veux, ça n'irait pas. Donc, de temps en temps, je dois avoir les gros yeux. Et le jeu de rôle m'a appris à avoir les gros yeux.
Ça vous a entraîné pour la vie, en fait. C'est ça que vous nous dites.
Pour pas mal de situations tous les jours, ouais.
On vous a présenté comme quelqu'un qui défend le jeu de rôle auprès de ses détracteurs et des institutions qu'il méprise. Il y a vraiment des gens qui sont contre l'imagination. Vous avez des ennemis ?
Alors, des ennemis, c'est un grand mot. Je dirais plutôt qu'il y a des gens qui sont contre une imagination qui diffère de la leur. Ah. Je pense que pour une comparaison avec le football, il y a des gens qui seraient tous les deux passionnés de football, mais qui pourraient se disputer pendant des heures pour savoir si tel joueur doit être à droite ou à gauche. Voilà une comparaison plutôt simple. Et puis, les tracteurs, il y a vraiment différentes façons de jouer au jeu de rôle. Il y a beaucoup de débats là-dessus au niveau de la communauté, mais... ma foi, on arrive quand même à faire le tri et l'important c'est de s'amuser.
Et
ensemble.
Au pire, vous réglez ça avec des dés et vous savez qui a gagné, quoi.
Éventuellement, oui.
Il va y avoir un grand événement de jeu de rôle vendredi, c'est au Théâtre de la Concorde. Ce sera diffusé en direct sur la chaîne Twitch de Mister MV. C'est une personnalité très reconnue du milieu. La communauté, elle est très forte, elle est très engagée. Elle ressemble à quoi? Est-ce qu'on se reconnaît entre rôlistes avec des signes distinctifs qui ne trompent pas?
Alors, effectivement, moi je la trouve énergique et engagée. Il y a beaucoup de débats sur les réseaux, ne serait-ce que pour l'écriture inclusive dans les livres de jeux de rôle, sur la place des joueuses autour de la table. Et puis, les rôlistes, je pense qu'ils se reconnaissent. Il y a un élément qui est assez fréquent, ça a été dit tout à l'heure par Alexis, c'est le fait d'être geek. Il y a une culture de l'imaginaire qui est assez commune. Et donc,
avec des références communes
tout
aussi.
Tout à fait, des références communes. Alors, on peut.
On voit plus des trucs moyenâgeux qu'un truc qui se passerait dans un open space.
Effectivement. Et puis, il va y avoir des. Enfin, je pense que c'est plutôt une population qui va pas louper d'une pour pouvoir avoir le loisir d'en parler et critiquer par rapport à la version David Lynch ou autre.
Et alors, vous êtes aussi auteur de jeux de rôle, ça consiste à créer un univers? Parce qu'après, j'imagine que les péripéties, elles ne dépendent pas de vous, donc il faut mettre en place un univers.
Absolument. Alors, les péripéties dépendent pas du meneur ou de la meneuse de jeu. Moi, j'ai créé un jeu de rôle d'exploration historique dans lequel les personnages vont aller dans le passé pour se confronter à des événements et découvrir la vérité eux-mêmes, pas avec une approche liée à l'histoire de l'art. Mais comment dire ?
On doit imaginer tous les scénarios possibles et imaginables qui peuvent arriver.
À dire vrai, non, faut garder un petit peu d'improvisation. Et puis il y a des tas de choses qu'on peut pas prévoir. Il faut utiliser ce que font les joueurs et les joueuses. L'idée, c'est aussi que la narration soit au maximum partagée. On n'a pas une situation. Faut éviter d'avoir une situation de force où il y a quelqu'un qui dit c'est comme ça. Non, tu échoues. C'est pour ça que le recours aux dés qui ont des formes un peu originales vont permettre de déterminer si une action réussit ou échoue, ou réussit beaucoup ou échoue un tout petit peu. Et ça va permettre de résoudre, parce que si, moi je suis plutôt un défenseur de l'emploi des dés, mais on peut jouer à l'état de jeu comme Loup-Garou sans.
Je sens que c'est un grand débat dans la commune.
Sans aucun dé, mais ça peut aussi permettre d'éviter de décider de donner à une seule personne le pouvoir de dire ça marche ou ça marche pas.
Et Alexis Michérique, c'est un peu comme ça que vous écrivez, nous, en arborescence
Avec des dés.
Avec des dés, non, c'est
avec
vrai.
Avec des dés, ouais, en général, je leur donne une lettre à chacun, puis mes scénarios s'écrivent tout seuls. ça tombe, ouais, des fois c'est une chance.
J'étais très emporté dans cette histoire d'Alexis Michérique.
Ce qui compte, c'est la structure, et donc les structures de scénario, elles peuvent être linéaires, mais elles peuvent être aussi avec toute une arborescence et plein de possibilités. Et il y a aussi au théâtre des metteurs en scène qui travaillent même sur cette arborescence. Sébastien Zopardi, il fait des pièces où le public choisit où va aller la pièce. Il y a une pièce qui s'appelle L'embarras du choix, que vous pouvez aller voir. C'est assez ludique.
Alors vous êtes un loup-gariste, c'est un mot que j'ai inventé aujourd'hui. Vous jouez au loup-garou. Qu'est-ce que vous recherchez dans une soirée loup-garou? Est-ce que ça apporte des choses à votre créativité ou c'est du loisir pur?
Moi déjà, je suis loup-gariste depuis 15-20 ans. C'est vrai que la première fois, quand on a commencé à jouer au loup-garou, il n'y avait pas beaucoup de monde dans la communauté, puis celle-ci s'est bien agrandie. Il se trouve que c'est un jeu qu'on jouait beaucoup en troupe, puisque quand on part en tournée, on est et qu'on fait du théâtre et pas du seul en scène, on est 6, 7, 8, et donc il faut être minimum 7 pour pouvoir jouer au loup-garou, ce qui tombait plutôt bien. Et puis c'est un jeu que les comédiens adorent, parce qu'il faut endosser un rôle,
il
faut essayer de le garder, c'est de l'impro, c'est d'arriver à savoir bien mentir, à bien bluffer, donc vraiment, nous, moi il y a des gens avec qui je joue depuis 15 ans et on continue à se faire avoir, quoi.
Et alors, je voudrais pas vous vexer, mais Dragan Ristik, il dit que c'est un jeu d'apéro, le loup-garou, ouais. C'est pour les amateurs.
Ben, il a qu'à aller.
Il veut toujours recréer des rencontres, mais là, ça va créer.
Et ça, c'est typiquement le genre de mec qui aime jouer avec des dés, quoi.
Vous lui conseilleriez quoi, Dragan Ristik, à Alexis Michalik, si vous voulez aller un petit peu plus loin dans le monde du jeu de rôle?
Si je peux avoir un droit de réponse, l'apéritif, c'est sûrement le meilleur moment
la
du
journée,
repas.
La journée, bien sûr.
C'est absolument pas péjoratif. Ma foi, j'ai entendu parler tout à l'heure d'une passion pour l'histoire, donc j'avoue que je lui conseillerais et je lui proposerais de jouer au fil d'argent, qui est le jeu de rôle que j'ai écrit. Désolé, ça ressemble à un placement de produit, mais ça peut être une expérience. Assez intéressante.
Moi, j'adore l'histoire, mais je sais pas si mes amis vont être au rendez-vous.
Vous pouvez nous dire un truc de meneur de jeu tous les deux, et après on vous laisse tranquille.
Un truc de meneur de jeu.
Vous êtes meneur de jeu.
Moi, je suis meneur de troupe, surtout. Moi, je tape beaucoup dans mes mains, donc je vais pas le faire trop fort au micro, mais c'est un peu l'attitude. Allez, on y va. Allez, on y retourne.
C'est pas très impressionnant, mais je vous remercie quand même.
Ouais, moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs et joueuses aient une bonne immersion. Et par exemple, si quelqu'un devait avoir une scène dans laquelle il endosserait, par exemple, la peau de Buzz Aldrin et qu'il doit faire décoller Apollo 11, eh bien, on va mettre la musique, les effets sonores, on va faire le décompte avec tous les gens qui sont présents, et puis je vais glisser derrière sa chaise et simuler l'arrachage du sol en secouant sa chaise. Pour créer des petits souvenirs.
Ils vont très très loin, quand même, quand on met la musique de Buzz.
C'est beaucoup mieux. Au revoir, Dragan Ristik, merci beaucoup, et pour ceux et celles à qui cet enjeu j'aurais donné envie, la saison 8 de Game of Roll se déroulera donc ce vendredi 29 mars au Théâtre de la Concorde à Paris. Les places sont déjà épuisées, mais la soirée sera rediffusée sur la chaîne Twitch de Mister MV. Merci encore.
Merci.